en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, dans ce nouvel épisode d'Habit Vert, nous vous proposons de faire la connaissance de celui qui marqua le 19e siècle en France et en Égypte. Il s'agit de Ferdinand de Lesseps qui entrera à l'Académie des sciences en 1873, puis à l'Académie française en 1884. Adulé, puis mal aimé, il sera d'ailleurs condamné à 5 ans de prison par défaut, mais en considération de son âge et de son état de santé, le jugement ne lui fut pas signifié et malgré ses erreurs, on lui conserva le surnom de Grand Français. Car cet homme qui fut à l'origine de la construction du canal de Suez, et nous en parlerons ici, se lança également dans la construction du canal de Panama. C'est à cette époque en fait qu'il devra faire face à des débâcles, donc nous en reparlerons. En tout cas, pour découvrir ou redécouvrir Ferdinand de Lesseps, personnage peut-être un peu oublié de l'histoire, nous accueillons ici à Canal Académie son biographe Guylain de Diesbach. Guylain de Diesbach, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez écrit une biographie richement documentée sur Ferdinand de Lesseps, parue en 1998 aux éditions Perrin, et pour lequel vous avez reçu un prix, d'ailleurs le prix de la Fondation Napoléon. Donc, vous êtes écrivain. Je vous ai demandé quelle était votre fonction exacte avant de commencer cette émission. Vous m'avez dit de dire écrivain. Vous avez publié de nombreux ouvrages, donc des romans, des essais.
Oui, très peu, mais surtout des biographies.
Et surtout des biographies, dont celle de Madame de Staël, de la comtesse de Ségur aussi récemment.
De Proust, de Proust,
Chateaubriand,
l'abbé Meunier, qui était le père de Madame de Staël, l'abbé Meunier, enfin une dizaine à peu près.
Et pour Proust, vous avez d'ailleurs reçu le prix de l'Académie française.
Le grand prix de l'Académie
française de la biographie. Mais revenons à Ferdinand de Lesseps. Comment avez-vous fait sa connaissance? Comment vous est venue l'idée d'écrire sa biographie, tout simplement?
Eh bien, j'avais terminé un livre sur Chateaubriand. Et mon éditeur me dit, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Il y a toujours une collaboration entre auteur et éditeur. Il faut qu'ils soient d'accord, sans quoi le livre est refusé. Et donc, il ne faut jamais partir dans un livre sans avoir l'appui de son éditeur. Alors nous faisions un tour d'horizon et mon éditeur m'avait proposé Lamartine ou Lesseps. Alors j'avais d'abord choisi Lamartine et nous étions donné une semaine de réflexion et quand je l'ai revu, lui qui ne voulait pas de Lamartine et qui préférait Lesseps, moi j'avais changé d'avis et je préférais Lesseps et je ne voulais plus de Lamartine. Alors il a tout à fait changé à son tour ses batteries et nous sommes tombés d'accord sur Lesseps qui me paraissait un personnage finalement plus haut en couleur que Lamartine, parce qu'il y avait le côté qui me séduisait beaucoup, le côté progrès technique, le côté aventure à l'étranger, alors que Lamartine a été un très brillant poète, a été un homme politique malheureusement pas très brillant finalement, et il a eu comme Lesseps une fin, pas une vieillesse pas très gaie, mais pour les grands hommes, il ne faut jamais vivre trop longtemps. Finalement, survivre à ses triomphes, c'est très dur. Entre les deux hommes, j'avais le choix, donc les deux hommes malgré tout ont eu à peu près une même fin, sauf que Lesseps, ça a été beaucoup plus dramatique.
Alors, pour Ferdinand de Lesseps, je disais dans la présentation qu'il était un personnage un peu oublié de l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi?
C'est absolument incroyable, parce que même dans ma jeunesse encore, je me rappelle très bien, surtout c'était pendant la guerre, il y avait énormément de petites biographies de Lesseps qui paraissaient, parce que on avait exploité le sentiment français de l'époque contre l'Angleterre. Lesseps était passé pour avoir vaincu pacifiquement les Anglais avec son canal de Suez, et donc on avait republié beaucoup de petites biographies de Lesseps. Il y en avait même pour les écoliers, enfin si courtes, et il y en avait même une qui était extraordinaire parce qu'elle ne parlait pas de Panama. Elle arrivait à faire l'impasse complète sur Panama. Donc moi je savais très bien qui c'était. Et puis il faut dire aussi que j'étais grand lecteur de Jules Verne. J'ai publié d'ailleurs un livre sur Jules Verne. Merci. Et pour moi Lesseps c'était au même titre que Richard Burton ou que Monroe. C'était les grands, en fait, les grands conquistadors pacifiques, si vous voulez, du monde. Donc Lesseps m'était très familier, mais je ne soupçonnais pas en engageant dans cette aventure, j'ai fait comme Lesseps, je me suis jeté là-dedans le cœur léger et me suis aperçu après que c'était pas facile à cause justement de tous les problèmes techniques qu'il fallait les résoudre. résoudre. Et moi, il fallait comprendre comment il les avait résolus et faire comprendre aussi au lecteur comment fonctionnaient ces fameuses machines qui creusaient le canal, par exemple. Je me rappelle avoir passé un dimanche à refaire les plans d'une machine pour voir comment elle fonctionnait et pour pouvoir après l'expliquer à mes lecteurs.
Alors, avant de parler de ce fameux canal de Suez, on va peut-être revenir sur la genèse de Ferdinand de Lesseps. Vous aviez prononcé le mot d'aventurier. Et oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager dans sa vie.
Au bon sens du mot. Il faut dire qu'il appartient à une famille de consuls. Et à l'époque, fin 18e, début 19e, les consuls étaient souvent héréditaires. Une famille de grands négociants dans les échelles du Levant, en Algérie, en Tunisie. En Algérie, déjà l'occupation française en 1830 avait réduit un peu le rôle des consuls. Mais dans la régence de Tunis, au Liban, en Égypte, les consuls étaient souvent héréditaires, donc famille de négociants qui étaient au courant de tout, avaient quelquefois plus de pouvoir que les ambassadeurs. Ils avaient un très grand rôle à jouer. Et les Lesseps étaient presque, ils n'étaient pas héréditaires dans la même place, mais beaucoup étaient consuls. Le père de Ferdinand était consul, son oncle était consul, son grand-père était consul. Tout le monde avait été plus ou moins consul. Et ce qui fait que cette famille, typiquement française, avait ses membres nés et morts à l'étranger. Lesseps, finalement, si on faisait le compte de ses déplacements, a passé très peu de temps en France.
Ferdinand de Lesseps naît en 1805 et en 1825, il a 20 ans. Il est nommé avec son oncle, enfin en tout cas il va suivre son oncle au Portugal, je crois.
Il n'est pas resté longtemps. Il voulait l'Orient. Il y a une fascination de l'Orient dans cette famille. Son père avait été longtemps au Maroc, dans des conditions effroyables pendant la Révolution, puisqu'il n'était plus payé par le gouvernement. Après, il avait eu l'Égypte où il avait cru mourir, mais c'est là qui a été le début de la carrière de Lesseps, c'est que son père avait connu le début de Mehmet Ali, qui est devenu le vice-roi d'Égypte, grand aventurier aussi, grande figure.
Et nous verrons que ça va jouer un grand rôle après
et
pour la suite.
Lesseps, par les récits de son père, les récits de ses oncles, avait toujours été fasciné par l'Orient. Il avait aussi un autre oncle qui avait été à Constantinople. Enfin, il connaissait parfaitement tout ce coin de l'Europe et du Proche-Orient. Et donc, pour lui, c'était une vocation irrésistible. Quand il a eu, après Malaga, ce n'était pas un consulat bien amusant, mais il venait de Rotterdam, et Rotterdam, pour lui, ça a été l'horreur. Il n'était pas habitué du tout aux brumes du Nord, à la mentalité du Nord, il lui fallait le soleil.
Alors, effectivement, donc, il commence au Portugal, il reste très peu de temps, il va à Tunis, et puis...
Oui, Tunis, il avait rejoint son père.
Il avait rejoint son père.
Oui, mais son père est mort, son père était très, très éprouvé par tout ce qu'il avait subi. Et il a fini par être nommé... aide-consul à Alexandrie. Il faut dire aussi, on parle toujours du consulat du Caire ou d'Alexandrie, c'est le même en fait. Parce que la cour, à l'époque, passait l'hiver au Caire et l'été à Alexandrie. Alors il y avait deux consulats au point de vue bâtiment, le Caire et Alexandrie, mais en fait c'était le même homme qui occupait les deux. Donc il était à la fois, quand il est devenu consul, il était à la fois consul au Caire et consul à Alexandrie.
Alors à cette époque, on est en 1832, on a fait quand même un bond en avant là, dans le temps. Hein. Donc en 1832, il va, comme vous le disiez, se retrouver consul là-bas en Égypte, et puis il va...
Alors, il a d'abord été consul, il a été vice-consul, parce qu'il y avait déjà Mimo, le consul de France, qui tenait la place et qui l'a très bien mis au courant, et c'est Mimo qui lui a, pendant sa quarantaine, parce qu'il y avait un Anglais qui était mort à bord du vaisseau qui le conduisait à Alexandrie, et alors il fallait rester, la quarantaine était sévère, et alors ils sont restés 40 jours en rade, et Mimo est venu lui apporter des livres de la bibliothèque du consulat. Et c'est là où il a lu tout ce qu'on avait écrit sur... Suez, sur le canal de Suez, le percement, plus exactement le percement de l'isthme, et l'ancien canal qui avait existé, mais dans des temps très lointains. Et l'idée a germé. Il faut dire aussi que l'idée était partout dans l'air. Il n'était pas le seul. La preuve, c'est qu'il y avait ses mémoires, notamment le mémoire que les frères Lepère avaient rédigé sur les ordres de Bonaparte lors de l'expédition d'Égypte. Alors, il avait toute cette masse de documents et il a pu s'en imprégner pendant 40 jours. Et puis après, il y a eu cette chose extraordinaire qui mérite un livre, elle toute seule, il y a eu l'expédition des Saint-Simoniens. Les Saint-Simoniens avec le père Enfantin sont venus en Égypte pour faire le canal. Vous voyez, Lesseps n'était pas le seul. Il y avait des gens qui étaient beaucoup plus avancés que lui. Et le canal, si le canal ne s'est pas fait, c'est parce que Mehmet Ali n'en a pas voulu. Il faut dire aussi que le père Enfantin et sa troupe étaient des gens tellement bizarres que ça a déplu au vice-roi qui a trouvé ces Français trop agités, trop farfelus. Et il a d'abord voulu les mettre à l'épreuve. Il a dit « Je ne veux pas de canal, construisez-moi un barrage. »
Oui, ces Saint-Simoniens, comme vous le disiez, qui paraissait bizarre, pensait justement qu'en persensétisme, ça allait faire une alliance entre l'Orient et l'Occident.
Ils étaient mystiques. Mais il faut dire qu'ils étaient mystiques, ils étaient un peu fous, ils avaient quand même été tous emprisonnés par la police de Louis-Philippe. Quand ils étaient partis pour l'Orient, ils se sont embarqués à Marseille. Quand la foule, la Marseillaise, les a vus, elle a voulu les jeter dans l'eau du Vieux-Port. Quand ils sont arrivés à Constantinople, l'ambassadeur de France ne voulait pas les recevoir. Ils étaient très très bizarres. Rien que leur accoutrement, ils avaient dessiné un uniforme. Eh bien, rien que la vue, ils ressemblaient à des pantins, ça avait agacé les autorités françaises et les autorités ottomanes. Et en Égypte, c'était la même chose. Quand la troupe du père Enfantin a débarqué en Égypte, la première chose que le père Enfantin a dit, il faut maintenant se dessiner un nouvel uniforme. Mais par contre, il y avait des gens de valeur. La preuve, c'est que plus tard, beaucoup de Saint-Simoniens repentis ont peuplé tous les conseils d'administration des grandes sociétés industrielles ou maritimes françaises. Il y avait les Pereire, il y avait les trois frères Talabot. Enfin, il y avait des gens de grande valeur. Mais ils ont eu une jeunesse, c'était un peu une jeunesse contestataire qui s'était exprimée à travers le Saint-Simonisme.
Alors, on a bien compris cette période de créer un canal, c'est dans l'air du temps. Mais quand nous sommes en 1835, pour le moment, Ferdinand de Lesseps arrive en Égypte et il va se retrouver à être le percepteur, on va dire, du fils de
Mehmet Ali. Il l'a accueilli gentiment. Il y a des légendes qui courent là-dessus. En fait, Lesseps n'a jamais donné de leçons, ne s'est jamais occupé de lui. Lesseps était simplement gentil avec lui parce que l'enfant était un petit dernier et Mehmet Ali était extrêmement dur avec lui.
Mais comment il va faire la connaissance de ce fils?
Il était très lié avec Mehmet Ali. Mehmet Ali était le vice-roi. Lesseps était en consul de France. Il y avait deux puissances qui avaient leur droit à regard en Égypte. C'était l'Angleterre et la France, qui d'ailleurs s'empoignaient régulièrement sur toutes les questions égyptiennes. Mais Lesseps était considéré, le consul en Égypte avait quasiment le statut de l'ambassadeur, il faut dire, au point de vue importance. Et il avait souvent affaire avec Mehmet Ali. Et notamment, par exemple, il intervenait pour obtenir des grâces. Ça lui sera d'ailleurs rendu au centuple plus tard par la reconnaissance des gens. Mais il a été intervenu à plusieurs reprises auprès de Mehmet Ali. Et puis, il savait s'y prendre avec Mehmet Ali. Ils avaient tous les deux des tempéraments extrêmement, si vous voulez, originaux, avec une grande facilité d'expression, un charme aussi. Et les deux s'entendaient très bien. Donc, il était invité fréquemment au palais royal, au palais vice-royal. Et il avait vu toute la famille. Il connaissait le petit prince. Et le petit prince était très gros étant jeune. Et son père le soumettait à un régime forcé. Grossir. Alors, Lesseps quelquefois intervenait en sa faveur. Il y a une légende qui court, comme quoi le petit prince, quelquefois affamé, venait au consulat de France et Lesseps, qui avait pitié de lui, le poussait dans la cuisine et lui faisait servir une grande platée de nouilles. Mais ça, je crois que ça relève un peu du domaine de la légende. Je ne l'affirmerai pas.
La légende des macaronis. Mais
en tous les cas, il y avait le futur prince Mohamed Saïd avait trouvé auprès de Lesseps, si vous voulez, une audience paternelle, dirais-je. C'est comme si c'était un oncle ou un parrain qui avait toujours été gentil avec lui, qui avait compris cet adolescent un peu malheureux. À l'époque, d'ailleurs, on ne pensait pas que cet adolescent monterait un jour sur le trône.
Oui.
La gentillesse de Lesseps était purement désintéressée. Et puis, quand après, Mehmet Ali est mort et que Abbas Pacha est devenu vice-roi, ça a été le renversement complet de la politique de Mehmet Ali. Les Français étaient très mal vus. On a défait toute l'œuvre de modernisation faite par Mehmet Ali. Et heureusement, Abbas Pacha est mort. On n'a jamais su s'il avait été assassiné ou empoisonné. Enfin, il est mort. Et par le jeu dynastique de l'époque, c'est le Mohamed Saïd qui a été appelé au trône.
Le trône alors, en 1854. Oui. Mais alors, avant d'arriver à 1854, en 1837, Ferdinand de Lesseps quitte l'Égypte.
Hein, oui.
Avant de revenir...
La carrière consulaire, on vous nomme quelquefois pour vous empêcher de trop épouser les intérêts du pays où vous êtes. On vous change tous les 4 ans.
Donc il est parti en 1837, il est revenu en France.
Parce qu'il était un consul, dirais-je, de la carrière diplomatique. Tandis que les consuls héréditaires, c'était les familles de négociants qui tenaient puissamment la place où le père succédait au fils. Tandis que là, c'était un pays qui dépendait, si vous voulez, où le service consulaire dépendait du Quai d'Orsay, des affaires étrangères. Et Lesseps a dû céder la place. Et il s'était fait remarquer beaucoup en Égypte par son dévouement, d'ailleurs. Très apprécié des autres consuls, notamment lors d'épidémies de choléra. Et il avait déjà été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Ce qui était rare pour des jeunes consuls à l'époque, on ne distribuait pas la Légion d'honneur comme ça. Et il avait laissé des regrets en Égypte. Et après, il a été nommé en Espagne, Ou alors là, il s'est énormément distingué parce qu'il a été d'abord consul à Malaga, ça a été un consulat sans histoire. Il visait Barcelone. Il a eu Barcelone. Et à Barcelone, l'Espagne était un pays en perpétuelle révolution depuis, en fait, la déposition du roi Ferdinand VII par Napoléon. Alors le roi avait été rétabli. Et le pays, du coup, avait toujours été très agité. Il y avait la question carliste, la question de la succession au trône. Et Lesseps s'est trouvé pris à Barcelone dans une insurrection. Il y avait le caractère catalan, la volonté d'autonomie de la Catalogne, il s'est trouvé pris dans une série d'insurrections qui ont été extrêmement graves. C'était même presque une révolution. Et il est arrivé à sauver beaucoup de vies, à sauver notamment les intérêts de la colonie française, à sauver des républicains espagnols poursuivis par les royalistes, ou à sauver des royalistes menacés par les républicains. Il était tout à fait au-dessus des partis. Et il s'est acquis une énorme reconnaissance. C'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière, Barcelone a fêté le deuxième centenaire de sa naissance, avec des fêtes étonnantes. Alors qu'en France, il n'y a rien eu.
Mais alors, juste après cet épisode, il va tomber dans le creux de la vague, en fait. Il va y avoir un événement en 1849.
Il a été ambassadeur.
En 1849, à Rome.
Il était ambassadeur, ce qui était la consécration de sa carrière, ambassadeur à Madrid. Et puis, le prince président, devenant tout puissant en France, a voulu caser son oncle, le roi Jérôme, qu'il a nommé ambassadeur à Madrid. Et il a fallu céder la place. Alors, il a été nommé à Berne, il n'a jamais rejoint son poste parce qu'on avait besoin d'un diplomate habile, ce qu'il était, c'était un grand négociateur. Le gouvernement français avait besoin d'un diplomate pour aller rétablir un peu l'ordre à Rome, qui était en insurrection.
Et là, on est en 1849.
En 1849. Alors, ça a été le premier grand échec de la carrière de Lesseps. Lesseps n'a jamais eu de chance deux fois. Le canal de Suez a été un triomphe qui a étonné le monde entier. Quand il a voulu refaire la même aventure
à Panama, ça n'aurait pas été
à Barcelone,
cas.
Il avait réussi au-delà de toute espérance, malgré les cabales, les intrigues. Il faut dire que la France l'avait soutenu aussi. À Paris, on ne s'en laissait pas compter, on a toujours eu confiance en Lesseps. Mais il a eu beaucoup de mal. Et à Rome, il pensait être joué assez facilement. Ça a été un échec. Il était mal vu des militaires français que le prince président avait envoyé pour surveiller Rome et y entrer. Mal vu du pape dépossédé, mais réfugié à Gaète, avec les ambassadeurs officiels des puissances auprès de lui. Mal vu des révolutionnaires jacobins, les masinistes qui tenaient Rome. Il a essayé d'être le plus malin entre les trois partis. Mais il ne connaissait pas le caractère italien. Il connaissait le caractère espagnol, mais pas le caractère italien. Il s'est fait jouer, vraisemblablement, par Mazzini et son trio, ceux qui dirigeaient la République romaine. Et finalement, il a déchaîné contre lui, non seulement, donc, comme j'ai dit, les militaires, mais l'opinion publique en France. Tout le monde l'a accusé d'avoir été vendu aux uns et aux autres. Quand il est rentré, il y a des articles dans les journaux, l'admission a duré un mois. Les articles dans les journaux ont été épouvantables. On dit qu'il est devenu fou, c'est le soleil qui lui a tapé sur le crâne. Enfin, une campagne de presse injurieuse.
Tous ceux qui pouvaient être dithyrambiques envers lui s'étaient retournés.
Et pourtant, c'était le héros de Barcelone et le grand négociateur de Madrid. Et il y a eu cette chose sans précédent dans les annales diplomatiques françaises. Il a été déféré devant le Conseil d'État pour examen de sa conduite. Alors, je suis allé vérifier au Quai d'Orsay le dossier Lesseps. Il n'a pas été forcé de démissionner. Il n'y a pas de lettre de démission de Lesseps. Et il n'y a pas non plus un arrêté ou un décret le rayant de la liste du corps diplomatique. Mais jamais il n'a pensé, après une humiliation pareille, à reprendre du service. Part
alors
et
voilà,
d'autre, on a fait le silence.
Sa carrière diplomatique se stoppe
complètement.
Net en 1849.
La preuve, c'est qu'il est rentré dans la vie privée, et s'il n'avait pas eu sa belle-mère, Madame de Lamalle, qui avait de la fortune, et qui lui a dit « Allez donc faire le gentleman farmer sur mes terres ».
Il se met au vert, en fait.
Il n'aurait rien. Peut-être qu'il serait peut-être engagé avec les Saint-Simoniens pour faire comme modeste conseiller ou comme... Non, il a été complètement mis à pied.
Pendant quelques années, il se met au vert dans un manoir.
Ça n'a pas duré longtemps. Il a construit la propriété de sa grand-mère qui voulait une ferme modèle. Il a construit une ferme modèle. Et c'est là où, à ce moment-là, il était dans le Berry, à Vatan, dans le canton de Vatan, où il y avait les terres de Madame de Lamalle. Et c'est là où est arrivée la nouvelle de la mort d'Abbas Pacha et de la montée sur le trône de Mohamed Saïd.
Eh bien, je vous propose de marquer une courte pause, Guylaine Diesbach, et on se retrouve tout de suite après pour évoquer donc le canal de Suez qui va être notre seconde partie. À tout de suite.
Konaiga udollo shuddo ai shortinga ir shortanga whiskey re shuddo
De notre émission en habit vert, en compagnie de Guylaine Diesbach. Vous avez rédigé la biographie de Ferdinand de Lesseps, qui est donc l'objet de notre émission aujourd'hui. Nous nous sommes quittés au moment où Ferdinand de Lesseps, en 1849, et pendant quelques années, va rester dans cette maison, puisque sa carrière diplomatique va être stoppée net. Et il apprend, en 1854, que finalement, Mohamed Saïd va remplacer son père en Égypte.
Alors, je veux dire, c'est là où on voit que Lesseps est un homme d'action. Il a appris la nouvelle, il était grimpé sur l'échafaudage de construction d'un de ses bâtiments. Il a lu la lettre, les ouvriers lui ont passé le courrier à la main. Comme ça. Il a lu la lettre, il est descendu, il l'a relu, il a aussitôt préparé son voyage, il a mis son grand frac dans une valise, ses décorations, et il est parti comme un trait.
Le jour
pour,
même.
Presque le jour même, enfin, il s'est arrêté à Lyon pour voir justement un Saint-Simonien, Arlès Dufour, qui était un Saint-Simonien célèbre et qui avait beaucoup de projets de canal dans la tête. Et il s'est arrêté aussi un peu à Marseille. Mais enfin, il a fait très vite parce qu'en quelques jours, finalement, il était à Alexandrie.
Et alors, à ce moment-là, quand il repart, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est ce fameux canal de Suez.
Oui, novembre 54.
L'idée a germé.
Comme c'était un très grand diplomate, il n'en a pas parlé au vice-roi. Il a attendu. Si vous voulez, que l'émotion du retour se passe, que le vice-roi l'invite. Et en 15 jours, il a fait une tournée. Le vice-roi a organisé des excursions avec des grandes fêtes pour célébrer son avènement. Et au cours, justement, d'une excursion faite avec le vice-roi, à l'étape, il lui en a parlé. Et en une nuit, il l'a convaincu.
Et donc, le 30 novembre 1854...
Oui, le firmant.
Le firmant.
Oui, c'est-à-dire qu'on donnait à Lesseps le droit, et à lui seul, d'exploiter un canal unissant les deux mers. Je dois dire que le vice-roi a été au-delà même de la générosité, puisqu'il lui a donné en même temps 60 000 hectares de terre.
Mais là où personne
n'a réussi. Et des franchises incroyables.
Et là où personne n'a réussi, Ferdinand a réussi à convaincre ce fameux vice-roi.
Oui, bah, il y avait les liens d'autrefois. Et puis Ferdinand de Lesseps, on ne pouvait pas ne pas être convaincu par lui. La façon, même au moment de la chute, quand Panama, par exemple, ça n'allait plus du tout et qu'il faisait encore une réunion d'actionnaires, il arrivait encore à électriser les gens. Donc là, il était beaucoup plus jeune. Il avait 50 ans. 55, il est né en 1805, 55, il avait 50 ans, il était tout jeune encore, un cavalier extraordinaire, ce qui plaît, charmait beaucoup les Arabes de voir un sportif. Et il est arrivé à convaincre le vice-roi, qui ne demandait d'ailleurs qu'à être convaincu, parce que pour lui c'était quand même un acte d'autonomie vis-à-vis de la porte de Constantinople, qui était le suzerain de l'Égypte. L'Égypte n'était qu'une province à l'époque. Mm-hmm. Le mot de vice-roi le dit bien. Et d'autre part, ça promettait une réputation à l'Égypte, il aurait été le souverain qui avait participé à cet événement mondial. En plus, il y avait une source de revenus appréciable, puisque l'Égypte touchait 15% des revenus du canal.
Et alors, entre 1854 et le premier coup de pioche en 1859, il y a donc un temps nécessaire pour réunir tous les actionnaires nécessaires.
Non, c'est pas ça. C'est en fait, Constantinople, on l'appelait la Turquie, l'homme malade de l'Europe. Mais cet homme malade de l'Europe avait beaucoup de médecins à son chevet. très intéressé à son sort. Il fallait qu'il soit suffisamment malade pour ne pas causer d'inquiétude et suffisamment bien portant pour ne pas disparaître, en laissant la place à d'autres appétits. Alors les puissances, la Russie, la France, l'Angleterre, même l'Autriche, tout ce monde-là était à Constantinople à surveiller la porte, comme on disait, pour que la politique soit conforme à ce qu'ils voulaient, tout en se disputant entre eux l'embauche de l'héritage ottoman. Et donc, l'Esseps, le problème était en fait un grand problème diplomatique. Le problème technique est venu après et a été finalement presque plus simple à résoudre. L'Égypte étant une propriété du sultan, il ne pouvait autoriser le percement d'un canal qui était une modification de la structure du pays qu'avec l'accord du sultan. Or, l'Angleterre était absolument opposée au canal en disant « ça, c'est une manière pour la France de coloniser l'Égypte et de s'emparer de l'Égypte ». Donc, l'Angleterre a toujours menacé Constantinople des pires représailles si elle donnait l'autorisation.
Et le vice-roi attendait l'accord.
Et le vice-roi attendait. Bien, c'est là où la lutte, ça a duré des années. Ça a duré quasiment jusqu'en 1864-65. L'Esseps allait périodiquement à Constantinople pour essayer, si vous voulez, de faire avancer son dossier. C'était absolument comme une demande qui était bloquée. L'Angleterre avait des ambassadeurs qui étaient de véritables, eux, vice-rois à Constantinople, qui faisaient la pluie et le beau temps, et tous les pachas tremblaient devant l'ambassadeur d'Angleterre. Alors que les liens entre la France et l'Angleterre n'étaient pas mauvais grâce à Victoria et à Napoléon III, mais les maîtres s'entendaient à peu près, mais les suivants se battaient. Donc ça a été pour les Lesseps une période extrêmement difficile parce qu'ils faisaient des tournées en Europe pour convaincre de l'utilité du canal. Tout le monde applaudissait, tous les commerçants, tous les grands négociants, tous les armateurs anglais disaient « mais c'était une idée merveilleuse ». Mais Palmerston, le grand ministre britannique, était contre. Et en fait, l'hostilité au canal pour l'Angleterre venait uniquement de ce que c'était français.
Et alors d'où venaient les fonds finalement au départ pour pouvoir construire ce canal?
Alors donc il fallait l'autorisation qu'il n'a jamais eue finalement, sauf à la fin quand déjà le canal était aux trois quarts creusé. Alors il s'est dit avec son intrépidité habituelle, il faut forcer la main. Quand le canal sera fait, on n'osera pas nous refuser le firmant de confirmation, ou le faire détruire, ou le faire bon. Et alors il a demandé de commencer les travaux, et pour ce faire il fallait de l'argent. Alors Ferdinand Lesseps a eu l'idée toute simple et ingénue de s'adresser directement au public. Quand il est allé voir des banquiers, tous les banquiers lui avaient fait des conditions effrayantes qui faisaient que sur une somme, mettons, par exemple de 10 millions, ils en gardaient deux. Alors le service dit ce n'est pas possible. Alors il a loué une pièce au rez-de-chaussée 12 place Vendôme et il y a mis une table en bois blanc, une chaise et un employé. Et puis il a dit attendez les souscripteurs. Mais il avait fait tellement de conférences, il s'était tellement démené et il était tellement connu que les souscripteurs ont afflué. Il a pu annoncer, mais alors c'est là où c'est aussi assez compliqué quand on veut entrer dans le détail, il avait émis 400 000 actions à 500 francs chacune pour réunir les premiers fonds nécessaires. Le vice-roi en a pris aussitôt une quantité très importante, je crois, près, oui, 100 000. Le petit épargnant français a beaucoup souscrit. C'était une souscription populaire, ça n'a pas été une souscription des banques ou des grandes sociétés, non. C'était une souscription populaire. Les gens donnaient de l'argent à Lesseps parce que c'était monsieur de Lesseps. Il y avait des soldats d'un régiment qui se sont cotisés pour acheter une action.
Et puis parce qu'ils étaient assurés.
Un vieux prêtre a acheté une action aussi. Enfin, il y avait des tas de gens qui portaient leurs modestes économies à Lesseps parce que Lesseps était le grand champion des Français contre les Anglais. Mais il avait réservé 25 000 actions à chacun des pays intéressés. La Russie, l'Italie. Avec forcément l'Italie, c'était intéressant la première, les États-Unis, il y avait enfin un pourcentage entre 15 000 et 25 000 suivant chacun. Et les banquiers de ces pays ont souscrit pour le compte de leurs clients, ce qui fait qu'ils avaient un engagement vis-à-vis de Lesseps. Donc, quand il y avait une date de fin d'émission, Lesseps a annoncé triomphalement que l'émission était couverte. Et en fait, elle ne l'était pas. Parce que l'Angleterre, ou un banquier anglais, je crois que c'est Baring, je ne sais plus quel est le nom du banquier, enfin un grand banquier anglais, s'était porté fort et avait souscrit 25 000 actions en disant « je les revendrai aux clients, au besoin avec bénéfice ». Le gouvernement anglais a fait une telle campagne que les banquiers anglais se sont retrouvés avec les 25 000 actions sur les bras.
Personne ne voulait acheter ces fameuses actions.
Oui, l'Autriche est entrée en guerre avec la France, la guerre pour l'indépendance italienne. Finalement, les actions prises par, je crois que c'était le banquier Revoltella, n'ont pas été souscrites. Et il y a aussi un autre pays, la Russie, s'en est désintéressée. Ce qui fait que les engagements sur l'honneur, et même sur papier, pris vis-à-vis de la compagnie de Suez n'était pas tenu. Alors là, juridiquement, vous pouvez forcer les banquiers à exécuter.
Voilà, bien sûr.
C'est-à-dire, alors les banquiers, sur leur propre fonds, prennent des actions et disent, on tâchera de les vendre plus tard, c'est les choses dans le bien. Mais les CEPS a pris conseil de conseillers juridiques et d'avocats qui l'ont dit. Ce serait inélégant et ça ferait très mauvais effet qu'on apprenne que l'émission n'a pas été couverte finalement. Alors, on a passé l'éponge, on n'a rien dit aux banquiers qui s'étaient portés fort, et le vice-roi a repris 87 000 actions de plus, s'endettant lui-même et endettant l'Égypte au-delà du possible. Mais vis-à-vis de la foule, vis-à-vis des souscripteurs, pour la façade, l'émission était couverte avec enthousiasme rapidement. Mais vous voyez la faille qu'il y avait.
Ah oui, effectivement, mais alors ça veut dire qu'il était actionnaire majoritaire.
C'est tout le développement après ultérieur des affaires du canal, parce que la vice-royauté d'Égypte était encombrée d'actions de Suez et couverte de dettes. Et c'est comme ça que finalement les actions du vice-roi ont été vendues à l'Angleterre, qui s'est assuré comme cela le contrôle du canal. Et les CEPS avaient pris, là, ça se passait en 1875, je crois, les CEPS avaient dit, en fait, je n'en suis pas du tout vexé ou ennuyé, parce que j'avais réservé une part importante à l'Angleterre, elle n'en a pas voulu. En rachetant les actions en surplus du vice-roi, enfin, elle a la part qu'elle aurait dû avoir. Bon, enfin là, j'anticipe, si vous voulez, mais c'est important de dire, au début, si vous voulez, c'est ce qui expliquera plus tard Panama, c'est qu'au début, déjà, il y a un embarras financier terrible que personne n'a jamais su à l'époque.
Alors, donc on est en 1859,
oui,
le premier coup de piège.
Oui. Il faut dire une chose importante qui explique aussi la réussite de l'ESSEPS. On revient là, on quitte le point de vue bancaire pour aborder le point de vue technique. Jamais personne au monde n'avait eu l'idée de faire le canal comme l'ESSEPS l'avait fait. Parce qu'il y avait deux inconvénients. Le premier, c'est l'existence du port d'Alexandrie. Personne n'avait pu croire qu'on pouvait faire un canal qui ne débouchât pas à Alexandrie. Parce que c'était le port. Pourquoi chercher un port ailleurs, il y a Alexandrie. Et secondo, Alexandrie n'était pas du tout dans la ligne droite de Suez. Et secondo, c'est que tout le monde était persuadé qu'il fallait un canal à écluse, puisqu'il y avait une différence de niveau entre la mer Rouge et la Méditerranée. Et ça, c'est absolument extraordinaire, parce que même moi, qui suis nul en mathématiques, nul en physique, je savais qu'il existait, ça existe depuis le Moyen-Âge, je ne sais quoi, même avant, même Archimède, je crois. Depuis Archimède, le niveau général d'équilibre des fluides. Eh bien, tous les savants, y compris ceux de Napoléon, ont conclu en disant si jamais on faisait ça, il y aurait la mer Rouge déborderait. Bon. Finalement, on s'est aperçu que c'était une idée, mais qui avait complètement, si vous voulez, faussé le jugement de tout le monde. Et puis, les CEPS, en voyant la carte d'Égypte, et puis connaissant parfaitement le pays, dit on fait un canal direct. Suez, c'est le goulot d'étranglement, on ne peut pas prendre autre chose que Suez. Vous foncez à travers, en essayant d'utiliser ce qu'il y a comme lac plus ou moins desséché ou comme tronçon du vieux canal des Pharaons, on va en ligne droite sur la côte méditerranéenne, on lui dit mais il n'y a rien, et bien on fera un port. C'est ça qui était le génie de l'ESSEPS, c'est de fabriquer un port là où il n'y en avait pas, et où c'était d'ailleurs difficile à faire, parce que c'était une très mauvaise côte, sablonneuse, plate, enfin pas du tout facile. Et ça a été Port Saïd, en l'honneur du vice-roi.
Et alors pour les problèmes, on va dire, techniques, on a le problème d'hommes aussi.
Oui,
puisque...
alors ça c'était la façon dont l'ESSEPS se débrouillait était merveilleuse. Moi, j'ai lu sa correspondance à la compagnie de Suez, par exemple. La hauteur de vue, le pouvoir, la rapidité, le pouvoir de décision, la compréhension, c'est extraordinaire. Là aussi, il y a eu d'énormes question difficile de main-d'œuvre, parce que les Anglais, craignant une invasion de l'Égypte par les ouvriers français, avaient insisté au prix du vice-roi pour que la main-d'œuvre soit exclusivement indigène. Alors les CEPS étaient obligés d'employer les Égyptiens. Les Égyptiens refusaient de se servir d'une pelle et refusaient de se servir d'une brouette. Il fallait y gratter la terre avec la main et puis la passer à un voisin et on la remontait de main en main, la boue qu'on tirait du canal remontait. Après, les Anglais ont dit « Ah, mais les CEPS, c'est épouvantable, il fait travailler les gens comme des esclaves. »
Sans les payer.
Sans les payer, alors qu'ils étaient mieux payés que ce que payaient l'État et les propriétaires égyptiens.
Et c'était ce qu'on appelait la corvée aussi.
Alors, il y a eu une campagne contre les CEPS dans tous les journaux, et il disait « C'est bien à vous de vous moquer de mes façons, alors que je fais travailler les gens contre salaire, alors que les enfants dans vos usines de Manchester et de Leeds travaillent à partir de 8 ans ou de 10 ans et meurent de bon. » Ça a été une lutte perpétuelle contre l'Angleterre, et finalement l'Angleterre, au nom de l'humanité dont elle se moquait éperdument, a demandé la suppression de la corvée. Alors à ce moment-là, les CEPS a dit « Bon, j'ai les mains libres, je ne suis plus obligé maintenant d'employer les Égyptiens, je vais faire venir des gens d'Europe et des machines. » Et ça a donné un essor à une partie de l'industrie française, car il a fallu inventer des machines.
Ce sont les premières machines.
Pour le dragage particulier de Suez. On draguait en terrain très mou.
Et des machines, j'imagine, de taille pharaonesque.
Il y en a eu, la fameuse machine Couvreux, est toujours au musée des arts et métiers.
Donc finalement, ça va durer 10 ans.
Oui, elle a commencé en 59, le premier coup de pioche. Ils ont eu de grandes difficultés à certains moments pour certains travaux de dragage. Mais les difficultés techniques, Dieu sait si je me suis penché sur elles, ne sont que peu de choses à côté des difficultés diplomatiques. 20 fois, il y a eu la menace d'interrompre les travaux. 20 fois, des télégrammes sont arrivés menaçant le vice-roi de pires représailles s'il continuait à faire exécuter les travaux. La flotte turque est même venue, si vous voulez, s'embosser devant Alexandrie pour l'intimider. Ils ont eu les pires ennuis, et ce qui est admirable dans cette aventure de Suez, c'est la croyance de Lesseps en son destin et en disant « nous vaincrons ». Mais alors, il ne faut pas négliger l'Odéon non plus, sa perspicacité technique, parce qu'il avait quelquefois raison contre les ingénieurs. Il y avait une espèce de bon sens évident, et devant des ingénieurs qui se disputaient sur des questions de plan, comment ils ont fait, il dit « il faut faire comme ça », et il avait raison. Alors qu'il n'avait aucune formation technique.
Et donc, inauguration de ce fameux canal
inauguration,
en 1869,
oui,
en grande pompe.
Ça a été la dernière
c'est ce qu'on
grande,
appelle les mille et une nuits.
Oui, c'était la dernière grande fête française du 19e siècle. Je ne parle pas des expositions comme 89 ou 1900, mais parce que les expositions, c'est très joli. Vous construisez un quartier artificiel et après, il ne reste rien. Tandis que Suez est resté. Et ça a été une inauguration. Il n'y a que l'Angleterre et la Turquie qui ne sont pas venus.
Avec tous les grands noms
sans quoi toute l'Europe est venue. Mm-hmm. Et ça a été une fête. Ce qui a achevé d'ailleurs d'endetter le nouveau vice-roi, le vice-roi, le Khedive Ismaël, qui a voulu faire les choses somptueusement. Ça a augmenté encore la dette de l'Égypte et ça a expliqué tous les ennuis que l'Égypte a eu au point de vue financier après. Mais la réalisation, alors il faut dire que l'inauguration s'est faite vraiment, dirais-je, avec la crainte perpétuelle que quelque chose n'alla pas. Enfin, parce que le canal, deux jours avant, même la veille, il y avait une frégate égyptienne qui s'était échouée, qu'il a fallu déséchouer pour que les bateaux puissent passer. Trois semaines avant l'inauguration, on a découvert un banc de grès qui n'aurait pas pu laisser passer. Il avait échappé à tous les sondages, il a fallu le faire sauter dans des circonstances extrêmement difficiles.
Enfin, donc ça a été fait,
comment dire vulgairement, ric-rac.
Ça a été fait.
Ça a été fait.
Eh bien, je vous propose de marquer une seconde courte pause et puis on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. À tout de suite.
L'Académie française.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres.
L'Académie des sciences.
L'Académie des beaux-arts.
L'Académie des sciences morales et politiques.
Pour vous,
une seule radio.
Sur Internet.
Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert, en compagnie de Guylain de Diesbach, avec qui nous découvrons Ferdinand de Lesseps. Nous nous sommes quittés en Égypte en 1869 avec l'inauguration de ce fameux canal de Suez. En 1873, Ferdinand de Lesseps est élu membre libre de l'Académie des sciences. Et comme vous me le disiez pendant cette pause, en fait, on l'a très peu vu ici à l'Institut, dans les murs de l'Institut.
Pour la bonne raison qu'on le voyait très peu à Paris, parce qu'il était sollicité tous les côtés. Il courait le monde, toujours à la recherche d'un nouveau projet. On l'intéressait très facilement, il y avait beaucoup de faiseurs de systèmes ou d'inventeurs qu'il sollicitait, mais il avait des idées. Il avait organisé comme ça une expédition parce qu'il voulait absolument faire une mer au Sahara. Alors il allait reconnaître les lieux. Il s'était intéressé à un chemin de fer qui partait de Moscou avec une bifurcation à Irkoutsk, une sur la Chine, une sur l'Inde. Il avait envoyé un de ses fils reconnaître le trajet. Et puis il y a eu une révolution et je ne sais quoi du côté du Pakistan. Enfin, il a interrompu. Mais il s'était intéressé à beaucoup de choses. Et puis, après le succès du canal de Suez, il faut dire qu'il a été invité partout pour être fait citoyen d'honneur, recevoir des décorations.
Il avait une renommée internationale.
Ah oui, oui, oui. Il traitait, comme je le dis dans ce livre, il traitait d'égal à égal avec les souverains. D'ailleurs, le ton de Lesseps était très, très royal dans sa correspondance que j'ai pu lire, les lettres adressées par exemple à ses ingénieurs et tout cela. Le ton est incroyable. Le ton est Louis XIVien. Quand j'ai visité le chantier numéro 37, il y avait des tuyaux gisant par terre. Cela offusque ma vue, que je ne les vois plus la prochaine fois que je passerai et tout ça.
Ah oui, effectivement.
Non, non. Et avec ça, il était plutôt républicain, parce qu'il avait beau être cousin de l'impératrice Eugénie.
Oui, cousin éloigné, mais
bah, pas vraiment, c'était assez proche. La mère de l'impératrice, c'était sa cousine germaine.
Oui, voilà.
Mais
oui, oui.
C'est assez proche.
Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il aura
il
justement...
Il a eu finalement un appui de Napoléon
voilà,
III.
Ça aura joué.
Qui lui aura manqué cruellement justement pour Panama.
Et voilà. Et donc nous allons maintenant avancer un peu dans le temps et arriver à ce second projet qui là, pour le coup, vous disiez que
Finalement le Lesseps avait... deux fois son coup.
Voilà, ne réussit pas deux fois son coup.
Il n'y a que son mariage. Il s'est marié deux fois. Les deux mariages ont été bons et bénis du ciel. Sinon, ces grandes entreprises n'ont jamais réussi deux fois. Il avait toujours pensé aussi à Panama. Bon, Panama, au XVIe siècle, on parlait déjà de percer l'isthme de Panama. Ça aurait été tellement
voilà,
pratique.
Voilà, Charles Quint déjà au XVIe siècle.
Donc l'idée est très... C'est comme Canal de Suez, ce sont des idées qui sont dans l'air, mais il faut savoir les attraper.
Mais là, à cette époque-là, on est donc dans les années 1880 à peu près.
C'est 79.
79, oui. Et Ferdinand Lesseps commence à être un peu âgé. Bah,
il a 75 ans, 74 ans. Mmh. Et c'était Lucien Waez, dont la mère est une Bonaparte, qui avait la concession, parce qu'on avait étudié plusieurs pays, si vous voulez, pour l'isthme. Il y avait le Nicaragua, il y avait Panama. Bon. Oui. Et alors, on a décidé que le plus court était le mieux. Et c'est Lucien Waez qui a acheté, qui s'est fait donner la concession, et qui l'a revendu à la compagnie de Panama 10 millions. Mmh.
Dirigé par Ferdinand Lesseps.
Alors Lesseps, quand il y a eu la Société de Géographie tout près d'ici Boulevard Saint-Germain, un grand congrès pour parler de Panama, on a étudié différents projets et on a opté finalement pour celui de Panama, le canal à travers le Panama. Et à la fin de la séance, quelqu'un a dit, et je dois vous annoncer que monsieur... Ou alors c'est Lesseps lui-même qui a dit, et je vous annonce que je prends la présidence de la société. Alors en ce moment, l'enthousiasme et les applaudissements. Bon. Mais il aurait mieux fait de s'abstenir. Son fils Charles, qui avait du bon sens, lui avait dit, c'est la folie. Tu es déjà trop âgé. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as la gloire, une réputation intacte, de l'argent. Que vas-tu chercher à Panama ?
Mais il voulait renouveler l'expérience.
Oui, mais il n'y avait pas les mamas. Et puis, alors, il ne connaissait pas Panama. Il n'était pas allé encore.
Alors, qu'est-ce qui va faire ce débâcle financier et qui va faire que ça va ternir, finalement, cette image ?
Eh bien, c'est que d'abord, il s'est engagé avec trop d'optimisme dans une aventure parfaitement réalisable, puisque les Américains ont fini par faire le canal.
Oui.
Mais entre-temps, la science avait évolué à deux points de vue, au point de vue médical et au point de vue industriel. C'est-à-dire, quand les Américains ont racheté toutes les concessions, ils ont commencé par assainir le pays, ce qui fait que les gens ne mouraient plus de la fièvre jaune ou de la fièvre noire ou de je ne sais quoi. Et après, le matériel était encore plus sophistiqué. Mais c'était un gros problème sanitaire à Panama. Tout le monde mourait. Mais surtout, Lesseps s'est engagé là-dedans avec un optimisme qui commençait déjà à être un peu sénile. C'est-à-dire que quand on lui a fait un projet de coûte des travaux et de temps, de temps et de coûte, il a systématiquement déjà rabaissé le coût pour annoncer aux actionnaires que ça coûterait par exemple 600 millions, alors que 1 milliard 200 000 aurait été plus juste. Bon. Et puis, il ne connaissait pas le pays, il y est allé, on lui a masqué tout ça, on lui a présenté ça, il est allé pendant la bonne saison. Il a toujours vu Panama à travers des lunettes roses.
Et puis,
il ne s'en est jamais occupé, en fait. Il était président de la société. Lui, il a pris le rôle, dirais-je, de l'agent publicitaire. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a recommencé à prendre son bâton de pèlerin et à courir le monde de capitale en capitale, de grand port en grand port, pour dire aux gens l'intérêt. Tout ça.
Pour trouver les souscripteurs.
La première souscription a été couverte deux fois. Alors, il ne pouvait pas se plaindre. Mais au bout d'un certain nombre d'années, assez vite, on s'est aperçu que les gens mouraient comme des mouches. Que toute la boue, toutes les roches qu'on extrayait, avec les pluies incessantes, et quand on parle de pluie, c'est pas pluie, c'est cataracte qui tombait tous les jours, toute la boue reglissait, retombait. Bon, ça a été une catastrophe que Lesseps, alors là, a masqué. Il y avait un journal, le bulletin du canal interocéanique, qui publiait des nouvelles rassurantes. Parce que moi, j'ai vérifié, par exemple, certains articles du journal par rapport à des relations faites, si vous voulez, à la compagnie. C'était pas le même son de cloche.
Oui,
aux lecteurs, on donnait ce qu'ils voulaient entendre.
Des épidémies là-bas aussi.
Alors, vous parliez, j'ai des cousins qui sont morts là-bas. On racontait des gens qui se sont rencontrés le matin pour aller tirer, si vous voulez, du gibier. Et des jeunes ensemble, ils disent, ce soir, on ira faire un billard. Entre le matin et le soir, deux étaient morts. Un des rares qui a échappé, c'est le peintre Van Gogh, qui est allé travailler sur les chantiers, il s'en est tiré. Mais alors je citais l'exemple de Dingler, qui était le directeur général des travaux, Jules Dingler, qui, l'autre jour, je suis allé sur sa tombe au Sable d'Olonne, et personne ne savait où il était. Je dis quand même, c'est un grand homme, c'est un des grands ingénieurs du 19e siècle, vous pourriez honorer sa mémoire un peu plus. Et Dingler, à Panama, a enterré sa femme, sa fille, son fils et son gendre.
Lui, par contre, est resté.
Lui est resté, et tous les jours, après avoir enterré un membre de la famille, il était à 8 heures au bureau, ou sur les chantiers.
Donc en fait, là-bas, une véritable hécatombe.
Une hécatombe. Ça a commencé à savoir qu'il y avait une hécatombe. Les mauvaises nouvelles arrivent toujours. Alors les gens commençaient, l'action a commencé à baisser. Il fallait davantage d'argent, puisque c'était un gouffre à tous les sens du mot, Panama. Il fallait davantage d'argent. On a lancé des émissions. À ce moment-là, Charles de Lesseps, qui gérait ça, parce que Lesseps, je vous dis, uniquement les conférences. Charles de Lesseps était tout le temps visité par des gens qui lui disaient, si vous voulez faire un peu de publicité pour la compagnie, c'est temps. Si vous ne voulez pas, vous aurez un mauvais article. D'autres lui dire, je voudrais faire un article contre Panama parce que c'est un attrape-nigaud. Alors on donnait le texte à Charles de Lesseps, on lui disait, vous voulez pas que ça paraisse? Non. Alors 15 000 francs.
D'accord, bon.
Il y avait un chantage. Et puis quand les emprunts successifs avaient de moins en moins de succès, l'action par exemple à 500 francs, pour la placer dans le public, avec un rendement quelquefois de 8%, entre 5 et 8, on l'a proposé à 350. Et même à 350, elle ne trouvait plus preneur. Alors, il a fallu constituer des syndicats de banquiers, ce qui ne s'avait pas fait au moment de Suez. Les syndicats se servaient copieusement. Ils prenaient une prime, d'abord, sur l'émission, et puis une commission. Tant et si bien que quand ils rentraient, si vous voulez, 1 million, officiellement, on peut dire que la compagnie en touchait 600 000. Donc, ça a été un peu, déjà, une dérive financière. Et puis, devant la catastrophe financière, on a eu l'idée de faire un emprunt qui attirerait davantage le public, c'est de faire une émission d'obligation à l'eau.
Alors ça, d'obligation à l'eau.
C'est une sorte de loterie. Tous les ans, on tire des numéros et le petit actionnaire qui a pris 2 actions de 500 francs peut avoir un lot de 20 000 francs.
Ah!
C'est le principe de la loterie. C'est pour ça qu'on appelle ça à l'eau. C'était défendu par une loi sous Louis-Philippe. Et il fallait une autorisation pour pouvoir faire ça, on trouvait ça immoral. Alors on a dit, le seul moyen de sauver la compagnie, c'est de faire un lancement d'obligations à l'eau. Alors il fallait l'accord, si vous voulez, du gouvernement, il fallait que ce soit voté à la Chambre. Et c'est là où ça a commencé, le scandale a commencé, c'est que pour avoir la voix des députés, oui, un ministre a fait chanter Charles de Lesseps, le ministre des Travaux Publics, Bayot, a demandé une somme rondelette.
Des sous de table.
Oui, des sous de table. Enfin, il y a eu toute une série de députés compromis, y compris Clémenceau d'ailleurs. Enfin, je vous passe, parce que c'est très long. Les histoires financières sont extrêmement compliquées. Mais le résultat, c'est que ça a été une faillite monstre et un scandale politique dans lequel Clémenceau a vu sombrer sa carrière. Il n'est revenu à la surface qu'à la veille de la guerre de 14. Il y aurait eu Napoléon III encore. Le gouvernement aurait décidé de soutenir Lesseps, d'étouffer l'affaire, éventuellement de renflouer la compagnie en mettant d'autres gens à sa tête. Enfin, un souverain aurait pu prendre la décision pour l'honneur de la France, mm-hmm, d'essayer de trouver une solution. Tandis que là, tout le monde s'est défaussé les uns sur les autres. Aussi bien le président de la République que le ministre de la Justice. Bon, le procureur Kenneth Borpère a été chargé de poursuivre les Lesseps et tous les gens qui ont trempé. Alors, notamment, il y avait le baron de Reynac, qui était un financier très connu, qui s'est suicidé. Ça a fait l'objet d'un des livres célèbres de Barrès, Leur figure. Leur figure, d'accord, c'est le scandale de Panama. Et ça a déchaîné la presse, la grande, la petite, les journaux. Mais j'avais fait le compte dans mon livre de tout ce que les journaux avaient touché, justement, par le chantage de Lesseps. C'est fabuleux. Alors, un procès sensationnel. 2 procès.
Puisque il y a la liquidation de cette compagnie.
Alors, il y a eu un procès pour corruption de fonctionnaires et un procès pour, si vous voulez, faillite, dirais-je. Il y a eu 2 procès.
Où Ferdinand et Charles de Lesseps, donc le père et le fils, étaient condamnés.
Gustave Eiffel a été condamné. Il ne faut pas oublier que la tour Eiffel, ici, a été payée en partie par Panama. Eiffel s'est fait grassement payer. Tout ce monde-là a été dégradé de ses insignes de la Légion d'honneur. Alors, on a dégradé Lesseps, Charles, et ainsi de suite. Et fait, on n'a pas osé, parce qu'il y avait l'inauguration de 1889 qui était encore toute fraîche, on n'a pas osé. Mais tout le monde a été éclaboussé dans cette affaire. Alors que les Lesseps y ont laissé jusqu'à leur dernier sou. La famille Lesseps se trouvait, au lendemain de Panama, absolument sans un sou. Le peu que Lesseps avait encore, il l'avait mis entièrement dans une nouvelle société de Panama qui essayait de sauver l'ancienne.
Et son image est ternie, l'image de la famille est ternie.
Ça n'a pas duré très longtemps, parce que les gens se sont aperçus qu'il y avait une grande injustice commise à son égard. Et même avant sa mort, le ton a changé. Et puis, après sa mort, tous les journaux, y compris les journaux anglais, par exemple, lui ont rendu hommage en disant « la France se couvre de honte ». En poursuivant une telle figure.
Et alors, ce canal de Panama, finalement, il a vu le jour, mais avec les Américains.
Oui, mais je vous dis, c'est une question de technique que Lesseps ne pouvait pas résoudre. Lesseps a été très léger de se lancer dans l'aventure, mais la question, il y a une anecdote qui vous montre comment la question ne pouvait pas être résolue à l'époque. Il y avait beaucoup de malades. Alors, dans les hôpitaux, il a fallu construire des hôpitaux à Panama. Le climat n'était pas le même que Suez. Et alors, on s'apercevait qu'il y avait énormément de fourmis qui montaient sur les lits des malades. Alors, on a placé les lits des malades, les pieds, dans des godets remplis d'eau pour empêcher les fourmis. Mais c'était un bouillon de culture pour les moustiques, et ils mouraient deux fois plus vite. Et on n'avait pas trouvé les vaccins contre la fièvre jaune. Donc les gens sont les Américains qui ont étudié le terrain et qui se sont dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut absolument tout ratisser, dirais-je, et il faut assainir les marécages, pomper l'eau, détruire les moustiques. Ils ont fait au moins 2 ou 3 ans de travail d'assainissement de l'isthme avant de continuer les travaux de dragage. Et ils ont fait surtout un canal à écluse. Alors que les lesseps, extrêmement entêtés, voulaient un canal plat, si vous voulez, à niveau, comme on dit.
Oui, canal à niveau. Et donc, ce canal verra le jour. Et puis...
En 1914.
En 1914.
Il y aura quand même une revanche pour lesseps. Le canal sera inauguré par une drague française qui datait de l'époque de lesseps.
Alors, il y a maintenant une statue là-bas de Ferdinand de Lesseps.
Ah ben, là où il a échoué, on l'honore. Là où il a réussi, on ne le connaît plus.
Ce qui est assez étonnant.
Moi, je sais que quand je suis allé la première fois à Ismaïlia, où il y a le siège de la compagnie du canal égyptienne, j'attendais, il y avait des prospectus comme celui-ci. Et alors, je l'ouvre et je vois que le canal avait été construit par les Égyptiens. Il n'y avait pas un mot de lesseps. Ni de Napoléon III, ni des Français.
Oui, alors effectivement, il y a peut-être le sentiment national qui revient.
Ouais, ouais.
Mais en tout cas, effectivement, pour le canal de Panama, on peut retrouver, pour les gens qui y vont visiter, on peut retrouver donc cette fameuse statue de Ferdinand
Lesseps. Ah oui, et puis il y a un musée. Je suis jamais allé, c'est trop loin. Mais il y a un musée, Lesseps.
Et donc, pour revenir à notre Ferdinand Lesseps, et puis aussi pour terminer cette émission, donc Ferdinand Lesseps décédera quand même à un âge assez avancé.
À 89 ans.
89
ans. Il avait perdu conscience.
Tout en visité quand même pas mal de pays, avoir risqué sa vie plusieurs fois.
Non, ça a été un grand Européen. C'est quelqu'un qui a toujours été au-dessus des partis. Il n'était ni royaliste, ni impérialiste, ni républicain. C'était un patricien, surtout. Un cosmopolite, et qui voyait toujours dans chaque pays ce qu'il y avait de bon. Il était aussi très libéral. Par exemple, à Suez, il y avait dans tous les chantiers une mosquée, une chapelle byzantine et une chapelle catholique.
Pour représenter
il était tout à fait au-dessus des partis, au-dessus des divisions, comme beaucoup de gens qui n'ont pas vécu en France. Il n'avait pas l'esprit de clocher. Extrêmement libéral, mais en même temps extrêmement autoritaire. Avec lui, il fallait travailler. Je dois dire, sa plus belle œuvre, c'est cette compagnie de Suez, qui était comme la première compagnie commerciale au monde. Avec des privilèges spéciaux. Pensez-vous que la compagnie de Suez figurait dans l'almanach de Gotha au même titre que les puissances semi-souveraines? Jamais aucune compagnie commerciale n'a figuré dans l'almanach de Gotha.
Alors, c'est ce qui lui a valu peut-être d'avoir des funérailles nationales, d'ailleurs, en 1894?
Non, il n'a pas eu de funérailles nationales. Au contraire.
Non.
Au contraire, le gouvernement voulait interdire tout.
Ah,
on avait conseillé à Charles Lesseps d'enterrer son père à la campagne. Charles Lesseps a refusé. On l'a enterré. On a fait le service à Saint-Pierre de Chaillot, l'ancienne église Saint-Pierre de Chaillot, qui est aujourd'hui détruite, remplacée par la nouvelle. Et la police faisait un cordon pour empêcher les gens d'entrer. C'était une honte du gouvernement français, ça. Le prince Murat, qui représentait l'impératrice Eugénie, a été obligé de se battre avec des agents de police pour rentrer à l'intérieur. Après, le cercueil a été porté au Père Lachaise.
Au Père Lachaise.
Oui, oui.
Donc on retrouve actuellement sa tombe.
Mais non, le gouvernement français n'a rien fait.
À Paris. Qu'est-ce que vous retenez en fait de ce personnage, Guylaine Diesbach? S'il y avait 3 mots comme ça qui pourraient le qualifier, ce Ferdinand de Lesseps sur lequel vous avez beaucoup travaillé et avec qui dont vous parlez avec beaucoup de passion, on va dire.
Je reprendrai un peu la formule de Gambetta, mais je crois que c'est un des hommes qui ont le plus honoré la France. Parce que vraiment, à part cette malheureuse aventure de Gambetta qui est un peu l'effet de la vieillesse, si vous voulez, jamais l'homme n'a été pris en défaut en quoi que ce soit. Grand patriote, sans être chauvin, très ouvert à tout, parlant plusieurs langues, s'intéressant à énormément de choses, et puis ayant le courage, l'intrépidité, l'ardeur. C'est tout à fait pour moi, alors là, pour conclure, je dirais, c'est tout à fait le héros vernien tel que Jules Verne l'avait conçu pour ses romans.
Eh bien voilà une belle manière de terminer cette émission. Je vais rappeler quand même le titre de votre biographie qui s'appelle tout simplement Ferdinand de Lesseps, paru aux éditions Perrin en 1998. Merci donc de nous avoir dressé ce portrait de ce fameux Ferdinand de Lesseps, Guylaine Diesbach. Et puis certainement à une prochaine fois pour une prochaine émission sur un personnage sur lequel vous travaillez certainement. Merci, au revoir.